RMC, entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel apéro des poteaux. Cap sur la 23e journée de championnat et alors que les phases finales approchent, le classement reste lui totalement indécis, à tel point que chaque week-end se joue des sortes de barrages avant l'heure, avec encore 9 clubs en lice pour les phases finales. Alors aujourd'hui, on bouscule nos habitudes et on ne s'intéresse pas à 2, mais 3 chocs du week-end. Le premier opposant Bayonne à l'UBB, Toulon à Toulouse au Vélodrome et enfin le Racing face à La Rochelle. Et pour vous présenter ces 3 affiches, Julien Landry et Nicolas Paolorsi sont avec moi. Salut messieurs.
On est des fous.
Salut,
on est des fous.
Monde.
Surtout que sache qu'on n'a pas eu l'accord du chef. Là,
c'est
on fait ça sans l'accord
c'est
du chef.
C'est vrai qu'on a fait ça sans l'accord du chef. Que va-t-il
là,
dire ?
Le chef est en vacances. Là, on est des fous. Là.
Il va nous
là,
écouter va en faire, courant. Là. Il va entendre le sommaire. Il va dire que c'est cette histoire.
Je c'est quoi cette histoire là ?
J'ai jamais dit que j'étais d'accord.
Fin de saison et le chef prend les vacances. Ça, je trouve ça très moyen. Mais bon, bref.
C'est une autre histoire. Bon, monsieur, une fois n'est pas coutume, je vous détaille les rencontres du week-end avant de démarrer. À commencer par Pau-Castres, samedi à 14h30. Le multiplex à 16h35, dans lequel on retrouvera Stade Français Lyon, Clermont-Perpignan, Bayonne-UBB, Montpellier-Montauban. Samedi soir à 21h, donc le choc entre Toulon et Toulouse au Vélodrome à Marseille. Et enfin dimanche 21h05, le Racing 92 reçoit La Rochelle. Côté classement, Toulouse, toujours leader et de loin avec 77 points. Pau et Montpellier complètent le podium avec 65 points chacun. Derrière, à 63 points, on retrouve le Stade Français suivi de Clermont et Bordeaux. L'UBB qui est donc 6e à égalité de points avec le Racing, 7e. Toulon est 8e et peut encore croire à une qualif en phase finale, on y reviendra. Tout comme La Rochelle, 9e. Et derrière, c'est plus compliqué en revanche pour Castres à égalité avec Lyon. Bayonne qui est 12e, Perpignan toujours 13e qui se concentre sur son access match à venir. Et Montauban qui serait officiellement relégué en Pro D2 ce samedi en cas de défaite contre Montpellier. Ce qui a des risques d'arriver, je crois, mon cher Julien.
Oui, non, mais Roxane, expliquons. Sur les 4 affiches qu'il y a, on estime que les 4 prétendants au top 6 vont battre 4 équipes qui n'ont quasiment plus rien à jouer.
Exactement.
Donc le Pau-Castres. Bah, après, on est nul en pronostic.
C'est
donc
vrai.
Donc peut-être qu'il
va peut-être
y avoir des accidents.
C'est très mauvais choix ce qu'on fait.
C'est ça. Mais en gros, on explique qu'il y a 4 affiches qui nous semblent aujourd'hui avoir moins d'intérêt parce que Pau, Montpellier, Clermont devraient notamment s'imposer à domicile contre des équipes qui n'ont quasiment plus rien à jouer d'ici la fin de la saison.
Tout à fait. On va commencer du coup avec toi, Nico. On va faire par ordre chronologique.
Oui.
Et on va commencer avec ce Bayonne-Bordeaux qui aura lieu donc dans le multiplex à 16h35 samedi. Après leur qualif en finale de Champions Cup pour la 2e année d'affilée, les Bordelais n'y vont pas pour faire tourner et reposer les effectifs. C'est un peu péril en la demeure. Ils sont 6e, on le rappelle, au classement. C'est pour ça qu'ils y vont avec la grosse équipe.
Ouais, totalement. Bah, c'est la grosse info hein, de cette 23e journée. Et franchement, on se demandait ce qu'allait faire Yannick Bru et son staff. Est-ce qu'ils allaient reposer les mecs parce que le temps de jeu effectif a été monstrueux contre Basse. Et non, il n'y a que 6 changements dans le 15 de départ. Beaucoup de mecs qui étaient sur le banc de touche contre Basse qui switchent à la place de titulaire. Mais globalement, on est sur les mêmes 23. Bah, le message envoyé, il est clair. Bordeaux doit prendre des points à l'extérieur pour se qualifier. On en parlait avec Sean Warby tout à l'heure, l'entraîneur de la touche, il nous disait, on parle même pas de barrage à domicile, là, on parle de qualification. Je vais prendre la donnée que Juju adore, mais au classement britannique, UBB est 7e. Donc, il faut absolument compenser ces 3 défaites à domicile. Ils le savent, les Bordelais, et clairement, après ce match contre Bayonne, il y aura la réception de Perpignan. Ils veulent faire le plein de points à Jean Daugé. Donc, voilà, ils sont conscients, en plus, que même si ce sera très difficile à Bayonne, l'Aviron est peut-être un peu démobilisé. Dernière prestade de Bayonne à domicile, ils en ont pris 54 hein, contre la section. Ça ne veut pas dire qu'on aura le même Bayonne, mais malgré tout, ils se disent qu'il y a peut-être un coup à faire. Donc, ils y vont pour jouer leur va-tout avec tout leur effectif dispo. Et en plus, il y a ça, c'était un truc qui me faisait un peu douter, mais on nous a dit qu'il y avait de la fraîcheur dans l'effectif de l'UBB. Les mecs ne sont pas rôtis. Et on en parlait avec Yoram Moefana. Il disait, oui, c'est vrai que moi, j'enchaîne. C'est mon 6e match consécutif là, mais j'ai raté le début de saison aussi. Pareil pour Maxime Lucu. Donc il y a quand même pas mal de cadres qui, même s'ils enchaînent
Romain Buros,
là, énormément,
idem.
Ouais, Romain Buros, même s'ils enchaînent énormément en ce moment, ils ont raté beaucoup de matchs dans la saison. Donc ils sont plutôt frais.
Après, c'est plus pour la fin de la saison qu'on. qu'on est un peu plus inquiet parce que à venir pour non, mais après, Bordeaux, dans leur calcul, il reste encore 5 matchs sans compter les phases finales.
Oui, mais dans leur
de
calcul, je pense qu'ils vont faire tourner probablement plus la semaine prochaine.
C'est pour
la réception de Perpignan, pareil. Bah, hey, même si l'USAP, attention, hein, ils sont venus embêter Montpellier parce que Montpellier s'est rendu le match compliqué. Mais voilà, on sait que les Catalans, tu l'as dit, ils préparent ce match d'accès au 14 juin. Alors Laurent Labitte, il essaye des choses. Il a envie de voir la solidarité de son équipe. Mais si Bordeaux, même en faisant tourner, il devrait passer sur Perpignan. Donc tu peux estimer que là, dans leur logique, il ne faut absolument pas perdre à Bayonne. Parce que moi, le match qui m'inquiète en fait là pour Bordeaux, c'est le match post-finale de Coupe d'Europe à Toulon. Où on se rappelle l'année dernière, hein, c'était exactement le même, où ils avaient envoyé, Nico, tu t'en souviens, l'équipe C à Toulon juste une semaine après. Et puis après, tu reçois Clermont. Donc, alors la question, c'est aujourd'hui, est-ce que trois victoires.
Clubs qui jouent leur place.
Ouais,
aussi,
est-ce que trois victoires, ça sera suffisant pour Bordeaux pour être dans les six? Bon, il y a plein de confrontations directes, donc il y a des équipes qui vont perdre des points. Mais je pense que très clairement, aujourd'hui, même avec trois victoires, ils ne sont peut-être pas sûrs d'être dans les six. Et que du coup, là, Bayonne, c'est à la vie ou à la mort, hein, ce week-end, en fait. C'est-à-dire que
c'est la dernière cartouche. C'est ce qu'ils nous disaient.
Exactement. Et c'est déjà ils vont démarrer sept semaines de phase finale quasiment. Bayonne, Perpignan, la finale de Coupe d'Europe, Clermont, Toulon et les matchs de phase finale. Ils ont démarré leur grosse phase finale là. Ouais. Ils les démarrent ce week-end à Bayonne. Donc c'est ça gagne et ça continue, ça perd et ils n'auront plus que la Coupe d'Europe à jouer. Donc par contre, la pression, l'intensité des matchs pour les mecs, heureusement que tu dis qu'il y a de la fraîcheur, mais là, psychologiquement, ça peut être lourd pour tous les joueurs toutes les semaines d'être remis
c'est
en question. Ouais, ça va être long.
À quoi va
c'est long, sachant
l'équipe.
Que. Vas-y. Je vais te donner la compo. Sachant que l'UBB était sur un marathon, parce qu'avant Leicester, donc le 8e de finale de Champions Cup, on se disait que si Bordeaux allait en finale de top 14, cumulé à une finale de Champions Cup, t'enchaînais sur, de mémoire, 15 semaines de compétition consécutive.
Avec le barrage.
Avec le barrage. Donc c'est monumental. Donc c'est sûr qu'il va falloir gérer aussi la fraîcheur mentale parce que les mecs enchaînent. Alors la compo bordelaise, je te la donne. Percho, Lamotte, Tammy Ifuna, Big Ben titulaire, pilier droit. Boris Palu, Cyril Cazot. En deuxième ligne, c'est très costaud. Un beau chaton, Woki, flanqueur, c'est Vergne Taillefer qui a été titularisé. Lucu, numéro 9, avec Hugo Reus en 10. Jalibert est sur le banc, on y reviendra. Moefana Huberti au centre. Sean Mousquès contre son ancien club. Il a été aligné par Yannick Bru sur une aile. Rayassi sur l'autre. Et Romain Buros qui revient derrière. Donc c'est du très lourd. Et il y a un banc de touche XXL
pour
le coup.
Le banc, il fait peur.
Ah ouais. Gaëtan Barlow, Hugo Boniface, Swinton, Marco Gazzotti, Arthur Retière, Mathieu Jalibert, Louis Bielbiaré et Sipili Falatea.
Voilà.
Je crois que les intentions bordelaises, quand tu vois le banc de touche, elles sont claires.
Ah, c'est clair. Ils vont jouer donc à Bayonne. Bayonne qui n'a pas gagné un match à la maison depuis le début de l'année 2026. Ils en ont gagné un, mais c'était à Noëta contre La Rochelle. C'est plus si difficile que ça d'aller gagner là-bas. C'est aussi pour ça qu'ils envoient la grosse équipe, peut-être, Nico.
Ouais, je dirais pas que c'est plus aussi difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que la dynamique de l'avion. Alors, il y a des joueurs qui rentrent du côté de Bayonne quand même pour ce match-là.
Oui, c'est vrai qu'ils avaient pas mal de blessés et d'absents. Quand même.
Ouais, pour se préparer. Malgré tout, tu peux te dire que c'est une équipe qui est un petit peu démobilisée. T'as plus rien à jouer, t'es 12e du championnat, t'es pas menacé par l'Access Match. Et si tu regardes devant, c'est quoi ton objectif? C'est d'aller chercher la 10e place de Castres. T'as pas mal de mecs qui peuvent potentiellement être déjà en vacances, même si on connaît la mentalité des Bayonnais, même si on sait qu'à Jean Daugé, à Bayonne, tu laisses jamais passer en match. Malgré tout, je me dis que si Bordeaux fait le taf pendant 40-50 minutes avec le banc de touche, s'ils sont dans les clous à ce moment-là, je me dis qu'ils peuvent réussir à le faire basculer de leur côté. Donc, ouais, c'est difficile de jauger cette équipe de Bayonne parce que, très honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Difficile.
Non, mais la digue bayonnaise, elle a sauté. On le dit depuis le début de la saison. Ils tenaient sur cette invincibilité à Jean Daugé parce qu'ils étaient catastrophiques à l'extérieur où ils en prenaient 40 tous les week-ends. C'est d'ailleurs Greg Pata, il disait. Et à partir du moment où ils ont eu cette première défaite à domicile, les équipes se sont dit que c'était plus impossible d'aller gagner à Jean Daugé. Tu l'as dit, Nico, la dernière victoire de la section paloise. Ils en ont pris 50 quand même, Bayonne.
Ouais. 22-54, ils en ont repris 52 à Toulon.
On ne s'est pas trop planté. On avait dit que Bayonne, ça pouvait être une saison compliquée. Pendant 6 mois, ils nous ont fait mentir en se disant que finalement, ils étaient accrochés. Mais la situation bayonnaise, elle était intenable avec Laurent Travers là. Et en fait, depuis que Laurent Travers est arrivé, t'as pas l'impression que cette équipe elle soit repartie de l'avant. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a toujours énormément de problèmes, rien qu'avec l'affaire Capilla qui veut pas prolonger, que Philippe Taïeb veut peut-être, selon le confrère de Sud-Ouest, se débarrasser, mais il sait pas s'il veut le garder. Ça m'a l'air un gros bazar Bayonne. Ouais. Et va falloir attention à l'intersaison. Hein. Il va falloir qu'ils vivent une intersaison sereine parce que l'année prochaine. Si l'USAP arrive à se maintenir et que Vannes monte, l'USAP, ils ne vont pas faire deux saisons en perdant les 10 premiers matchs. Et Vannes, c'est la troisième année du projet. Donc, ça sera une équipe qui sera dimensionnée pour se maintenir en top 14. Attention, la saison prochaine, à ne pas rater l'intersaison pour Bayonne ou pour plein d'équipes. Hein. L'année prochaine va être très, très difficile pour des équipes. Ouais. Et je m'inquiète pour Bayonne. Et là, je ne vois pas comment ils vont résister à Bordeaux avec le banc que tu nous annonces, Nico. Bayonne, ils n'ont plus rien à jouer, ils peuvent vite se démobiliser. C'est les matchs en fin de saison où tout le monde te dit ouais, mais ils doivent dire adieu à leur public, ils vont dire adieu à des joueurs qui partent.
Ce que j'allais dire, ça peut pas être l'effet inverse, ouais, justement, on n'a plus rien à jouer, donc allons-y.
Ouais,
quoi,
mais ça, moi, je trouve que, ça, je trouve que ça suffit. Ça suffit jamais. Une équipe qui vient avec 110% d'investissement, elle fera toujours plus mal à une équipe qui en met 90% dans les rucks. Hein, ouais. Parce que les Bayonnais, ils n'ont pas envie d'aller faire la guerre non plus contre des Bordelais. Alors attention, encore une fois, ils peuvent nous faire mentir, et tu as raison, l'enjeu des derniers agents d'OG. Mais les Bordelais, on l'a dit, c'est à la vie à la mort. Hein, donc ouais. Là, tu affrontes peut-être ce qui se fait de mieux ou quasiment de mieux en Europe et en France. Quand tu vois le banc de touche, je ne vois pas comment les Bayonnais vont résister à cette équipe-là. Hein.
Tu l'as, la compo bayonnaise
Bien sûr. Andy Bordelais, Nico, Martin et Luc Tagui, c'est la première ligne. Johnson, Moon en deuxième ligne. Fischer, Capilla et Virgil Bruni en numéro 8. Rodrigo Bruni, pourquoi je l'appelle Virgil Bruni? N'importe quoi.
Non, mais... C'est l'ancien Virgil Bruni, l'ancien joueur du Loup.
Virgil Bruni, c'est l'ancien joueur du Loup, ouais, complètement débranché.
L'ancien joueur du Loup, avec ça.
Test numéro 9.
Ça gratte le cheval.
Joris Second, ouais. Numéro 10. Mori Makala au centre, Carreras, Herbin Arte Garay sur l'autre aile et Yann Orabé à l'arrière sur le banc de touche. Bosch Cormenier, Bolos, Ariceta, Baptiste Germain, Spring, Tulagi et Emeric Setiano. Il y a un banc de touche aussi sympa du côté de Bayonne. Mais ouais, là, l'équipe. L'UBB est en mission, quoi. Franchement, ouais. Ce match-là, l'UBB est en mission. Donc.
Effectivement, ouais. Bayonne, pour donner le calendrier, pour être tout à fait complet, il joue à Lyon la semaine suivante, puis au Stade Français, et la dernière journée, réception de Perpignan. Mais effectivement, ils n'ont plus grand-chose à jouer, donc on voit mal comment ils pourraient s'en sortir face à Bordeaux. Donc ce match est à suivre à 16h35 samedi. Julien, tu t'es penché toi sur cette grande affiche qui aura lieu samedi soir. Toulon qui reçoit Toulouse au Vélodrome. Le RCT qui peut encore croire en une qualification en phase finale en cas de bonne performance sur cette fin de saison. Mais les réceptions au Vélodrome à Marseille sont pas toujours réussies.
Oui, et puis tu peux recevoir au Vélodrome une équipe qui n'est pas forcément vexée depuis quelques semaines.
Effectivement.
Là, le problème, en plus de Toulon, d'être au Vélodrome, c'est qu'ils reçoivent une équipe qui est un peu vexée d'avoir été éliminée en Coupe d'Europe, d'avoir perdu à domicile contre Clermont. Je pense qu'Antoine Dupont, il est un peu vexé aussi de tout ce qu'il entend depuis
quelques
semaines.
J'allais te dire, je pense que Hugo Mola, il tapisse le vestiaire avec tous les articles. Ouais. Dupont est-il encore vraiment le meilleur de mine-mêlée de France?
Non, mais tu vois, on parlait de Bordeaux qui a engagé un sprint final. Les Toulonnais, ils sont pareils. Et eux, ils ont du retard en plus. Il y a eu ce match de Coupe d'Europe contre le Leinster où ils sont pas loin de renverser les Irlandais, mais voilà. Ils
réveillent un peu trop tard.
Ce début de deuxième période, il leur coûte cher parce qu'après, ils reviennent. Je trouve qu'ils n'ont pas assez joué, ils n'ont pas assez tenté. Mais voilà, ils ont engagé un sprint final. Eux, ils ont vécu vraiment un hiver très, très difficile. On en a beaucoup parlé. Le soir de Perpignan, je pense que Pierre Mignoni, il pensait que la saison était terminée. Ils ont finalement pris derrière 10 points en top 14. Ils ont été qualifiés en demi-finale de Champions Cup. Donc voilà, c'est une équipe qui est de retour. Mais malheureusement pour eux, ils affrontent des Toulousains. Alors, certes, Hugo Mola dit que Toulouse est malade depuis quelques semaines, que la conquête est approximative, qu'ils sont beaucoup moins efficaces dans les zones de marque. Mais voilà, ça me fait penser un peu au discours d'Hugo Mola la saison dernière, où à une journée de la fin, ils étaient venus perdre à Perpignan. Et Hugo Mola avait dit c'est une grosse piqûre de rappel. Et il a dit exactement la même chose là, après Clermont, en disant c'est pas qu'une piqûre, c'est une énorme piqûre de rappel. Voilà, cette équipe, elle est... Je vais vous annoncer l'équipe. Parfois, on disait ouais, Toulouse, c'est l'équipe B, l'équipe C. Donc là, on va partir quand même avec Cyril Baye, Movaca, Merclair en première ligne, Flamand, Méafou en deuxième ligne, Cross, Roumat, Willis en troisième ligne, Dupont, Ntamack à la charnière, Lebel, Thomas sur les ailes, Barassi, Chocobarès au centre, Kinghorn à l'arrière. Donc voilà, là, voilà. Globalement, c'est l'équipe qu'on pourrait retrouver en finale de top 14.
Ah ouais.
Donc là, les Toulousains, ils rigolent pas. Alors, évidemment, on parlera après des Toulonnais, mais les Toulousains, ils sont vexés. Je pense qu'ils ont des réponses à apporter à tout le monde. Ils ont aussi besoin, malgré tout, de se rassurer d'ici la fin de la saison. Et n'oublions pas que les demi-finales du top 14 ont lieu au Vélodrome. Donc, c'est aussi
faire du repérage.
Ouais, mais c'est un bon rappel. Tu vois, honnêtement, l'équipe qui est au Vélodrome samedi soir, c'est une équipe qu'on peut voir en phase finale.
Bien sûr.
À la marge, tu peux changer Marchand pour Movaca, tu peux changer Aïnou pour Cyril Baye. Voilà, tu peux faire quelques changements. Mais globalement, c'est une équipe qu'on va retrouver en phase finale. Donc, pour eux, c'est un test grandeur nature au Vélodrome. Dans une ambiance un peu hostile avec beaucoup de Toulonnais au Vélodrome. Donc voilà, c'est une réponse que les Toulousains doivent apporter.
Ils ont gagné 50-16 l'année dernière quand même.
Oui, avec Serein qui avait pris un carton rouge. Ouais, alors Serein avait pris un rouge assez vite. Mais voilà, je pense que c'est une bonne réponse. Mais par contre, si les Toulousains viennent à perdre samedi, peut-être qu'il faudra s'inquiéter. Mais pour moi, je pense qu'il est trop tôt pour s'inquiéter pour les Toulousains.
Ça va être dur pour Toulon quand même. Quand tu regardes, alors tu disais, ils sont loin les Toulonnais, hein, mais ils sont loin quand même, hein, que ce soit au Britannique ou au classement global. Hein, parce que tu es à 5 points de la 6e place et au Britannique, tu es 8e derrière Bordeaux, mais tu es loin derrière Bordeaux qui est 7e au nombre de points. Tu as 5 points d'écart au Britannique avec l'UBB. Et ton calendrier, il est loin d'être simple, hein, puisque là, tu reçois Toulouse, tu vas au Racing, tu reçois Bordeaux et tu vas à Castres. Franchement, s'ils le font, chapeau à eux, mais je les vois.
Après, moi, je pense que le match le plus simple pour eux, c'est celui de Bordeaux, hein, une semaine après la finale de.
Ouais, non mais
oui, qui risque d'envoyer une équipe.
Celui-là, ouais, celui-là, bah, tu te dis que bon,
si
mais
tu perds, sauf si tu la perds la finale, tu sais pas trop. Mais tu as raison. Après, je sais pas. Je me dis que le débours là pour les Toulonnais, il va quand même, ça va être dur de le combler, quoi. C'est
mais là,
pas dire que c'est une mission impossible, hein, mais je les vois pas, quoi. Je les vois pas être capables de faire la nique à tout le monde sur, tu vois, sur un sprint final, aller passer ce stade toulousain là avec cet effectif là, avec ce contexte là, aller prendre des points au Racing qui va jouer la semaine prochaine aussi son top 6 à lui. C'est que des matchs à la vie et à la mort. Et les Toulonnais n'ont pas été ultra réguliers, quoi, depuis le début de la saison. Alors, ils sont capables d'hisser leur niveau, les compos sont belles, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, je les vois pas être capables de livrer 4 matchs énormes et de potentiellement venir se glisser dans les 6.
Est-ce que Baptiste Serein est titulaire pour
il sera titulaire, j'allais donner la compo toulonnaise. Je dis, on parlait de choc tronqué depuis le début de la saison. Celui-là, pour le coup, c'est une affiche qui nous fait saliver. Parce que côté toulonnais, donc on aura Gros, Lucchesi, Gigashvili en première ligne, Mezou, Alagaou en deuxième ligne, Kapoku, Mercer, Abadi pour la troisième ligne, Serein, Albornoz à la charnière, Ferté, Dréan sur les ailes, Frisch, Brex au centre, Jaminet à l'arrière. Alors, ils ont eu des petits pépins dans la semaine, les Toulonnais. Ils ont perdu Ribans et Olivon, notamment. Et ça, forcément, ça va faire mal. Et pareil, je n'avais pas parlé du banc de touche. Alors, côté Toulonnais, on aura Bobigny, Ametla, Siochvili, Coulon, Garbizi, White, Tuikovu, Sinclair, côté Toulonnais. Et côté Toulousain, Lacombe, Bertrand, Verger, Elias, Saito, Pouzelgue, Rému, Georges-Henri Colombe. Voilà un choc. Qui plus est au Vélodrome, devant 60 000 personnes, qui promet tenir des commerces. Mais je suis assez d'accord avec Nico. Je les vois loin, les Toulonnais. Et il faut passer beaucoup d'équipes. Le calendrier est compliqué. On disait, est-ce que 3 victoires, ça sera suffisant pour Bordeaux? Les Toulonnais, ils doivent quasiment compter sur 4 victoires.
Il en faut 4, bien
sûr. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que oui, on disait que Bordeaux, est-ce que 3 sera suffisant? Donc tu te dis que Toulon, il en faut 4. Aller gagner à Castres, dernière journée, qui aura peut-être plus rien à jouer. Aller gagner au Racing. Et puis après, malgré tout, moi j'ai souvent tendance à le dire, tu ne peux pas te relever d'une saison que tu as un peu ratée.
Ouais.
La saison, elle reste malgré tout le symbole d'une saison complète. Et Toulon, ils ont eu des manques cette saison. Et je les vois mal rattraper sur cette fin de saison tous les manques qu'ils ont pu avoir, notamment défensivement sur des moments de la saison. En termes de conquête, en termes de rigueur, ils ont raté beaucoup de choses sur cet hiver. Et au bout d'un moment, la saison, c'est le reflet aussi de tous tes matchs. Et alors, Toulon peut peut-être revenir, mais pour moi il y a eu trop de manque. Et puis là, je sais pas, je, quand je vois l'équipe de Toulouse arriver, ouf, ouais, c'est dur pour les Toulonnais de se dire. Puis dans le contexte Vélodrome, c'est presque un match qu'ils auraient dû jouer à Toulon celui-là, pour essayer
c'est
de faire tomber
souvent,
Toulouse. Mais là, ouais, là au Vélodrome, dans ce contexte-là, les Toulousains, ouais. En fait, Toulouse, c'est un peu le PSG quand ils se déplacent là. C'est-à-dire que il y a plein de gens au Vélodrome qui vont venir parce qu'il y a Toulouse,
Toulouse
comme
bien
quand
sûr.
Ils viennent à
l'année dernière, c'était record d'affluence hein, au Vélodrome, 66
ouais,
000 personnes.
Et en plus, pour la première fois, les Toulonnais vont voir Antoine Dupont, qui n'a jamais fait les trois derniers déplacements au Vélodrome. Donc demain soir, tu auras des gens qui seront supporters de Toulouse.
Ouais, en plus. Et je...
À mon avis, c'est quelqu'un qui doit te livrer le repas, Julien.
Ouais, je crois que c'est l'heure de,
c'est l'heure de l'apéro.
Je crois qu'on me livre l'apéro à la maison.
Messieurs, je vous parlais je vous demandais si Serein était titulaire. Je voulais vous demander s'il y avait un duel à suivre dans ce match, le duel Dupont-Serein. Peut-être deux des meilleurs demi de mêlée qu'on ait même sûrement en France et qui ont
N'oublie pas
été
Maxime
un
Lucu,
peu
tu vas nous fâcher,
piqués dans
Nico.
Leur orgueil justement avec cette performance Lucu la semaine dernière et Serein qui était sur le banc pour la demi-finale de Champions Cup la semaine dernière également.
Bah après je pense pas qu'ils soient piqués par leur orgueil hein. C'est enfin Antoine Dupont peut-être mais on a la chance d'avoir quatre demi de mêlée exceptionnels à ce moment-là c'est franchement c'est unique et je suis pas sûr que ce soit un duel entre eux. Je suis pas sûr que les mecs quand ils jouent ils se disent je vais jouer Serein ou je vais jouer Dupont, voilà, alors peut-être mais par contre pour nous c'est toujours une opposition qui est très sympa à avoir avec deux demi de mêlée qui ont des profils un peu différents mais très créatifs, explosifs, capables de faire la décision sur un match à eux tout seuls. Mais ouais, je sais pas. Autant, tu vois, Hugo Mola qui placarde les affiches pour piquer un peu les mecs sur le stade toulousain est cramé. Dupont est-il encore le meilleur ? Ça, je le vois bien. Autant, est-ce que Serein et tout ça, lui aussi, ça le chatouille, tout ça ? Est-ce qu'Antoine Dupont, lui-même, ça le gratte de voir tout ça ? Je sais pas. Je sais pas s'il est comme ça, Antoine Dupont. J'en suis pas sûr.
Je sais pas, moi autant tu vois le Dupont-Lucu m'intéresserait en termes de confrontation pour savoir lequel est le meilleur et lequel a de l'influence. Autant je pense que Serein il s'est fait une raison aujourd'hui. Il a été appelé en équipe de France parce que Maxime Lucu n'était pas là, parce que le Garec était blessé. Et je pense que Serein il a compris et moi je pense que Serein il a fait le mieux qu'il pouvait faire avec le temps de jeu qu'on lui a donné en équipe de France. Parfois des miettes, parfois des demi-heures. Avec Toulon, je trouve qu'il fait une bonne saison. Il est revenu de blessé. Je trouve que voilà, il y a un Toulon avec Serein et un Toulon sans Serein. Moi, je pense que Serein, lui, pour le coup, c'est un compétiteur. Et dans sa tête, il est persuadé d'être meilleur que Dupont. Et je pense qu'il a envie de le montrer. Mais moi, je suis plus excité par le duel aujourd'hui Lucu-Dupont parce que je trouve que Lucu a pris une dimension stratosphérique dans la gestion. Et il y aurait match. Mais voilà, je pense que. Je sais pas, je suis d'accord avec Nico, je sais pas si Dupont il est comme ça, mais c'est des compétiteurs et je pense que toute la petite musique qu'il entend Dupont,
bien sûr,
non, mais la petite musique qu'il entend Dupont là, du sautoir qui remonte, Vincent Clerc qui parle, Poitrenaud, tout le monde qui en... Non mais je pense que Dupont il a aussi envie de prouver des choses quand même.
Ça c'est
sûr. Mais je pense que c'est un mec qui quand on le voit sur les après-matchs, c'est un mec qui est très intelligent, très lucide, et qu'il est conscient de son état de forme actuel, et qu'il n'y a pas de pas de honte à dire qu'il est un petit peu moins bien. Le mec a tellement été bon pendant 7 ans et a tutoyé l'exceptionnel que, enfin, il y a rien d'infamant de dire qu'il est un petit peu moins performant et qu'il a un peu moins d'influence
terrien.
Sur le jeu du
stade
toulousain.
Il est un super terrien.
Il va sûrement vouloir nous faire mentir sur les phases finales, ça c'est sûr. On peut s'attendre à un Dupont exceptionnel.
Non mais il va redevenir le Antoine Dupont exceptionnel qui fait basculer des matchs à lui tout seul, on n'en doute absolument pas. Après tous les débats qui ont été faits cette semaine, c'est à un instant T parce qu'on voit que Maxime Lucu a une emprise sur son équipe que peu de joueurs, à part Antoine Dupont, ont eu sur leur équipe. Voilà.
Exactement.
Et après ça s'arrête là.
Exactement. Et à ce propos, on vous conseille d'aller écouter le podcast qu'on y a dédié lundi. On s'est demandé si Maxime Lucu était actuellement, c'est pour ça que tu fais bien de préciser à l'instant T, le meilleur demi de mêlée français. Et on avait Dimitri Yajvili pour en parler, c'était très intéressant. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous invite à aller cliquer, comme on dit. Voilà, le match sera à suivre donc samedi soir à 21h et on peut souligner, vous l'avez dit messieurs, une grande affiche à venir avec deux grandes équipes qui vont s'affronter. On a assez critiqué comme ça tout au long de la saison quand les équipes faisaient tourner. C'est vrai que là, on va se régaler.
Bah après, là, Roxane, c'est les phases finales. Et là,
exactement.
Là, plus personne ne peut calculer, plus personne ne peut dire, là, on fait la passe sur celui-là. Là, on envoie l'artillerie. Mais après, la question, ça sera la question, est-ce qu'il faut calculer dans une saison ou est-ce qu'il vaut mieux t'offrir une fin de saison un peu tranquille et faire tourner ou partir à la guerre comme Bordeaux, comme Toulon.
C'est ça. Voilà. Exactement. Bon, messieurs, exceptionnellement, je ne vais pas vous demander quelle deuxième affiche vous allez regarder ce week-end, parce qu'on l'a dit dans l'introduction, mais en préparant cette émission, on est tous tombés d'accord pour se dire qu'on aurait les yeux rivés sur Racing La Rochelle dimanche soir à 21h05.
On répète, sauf le chef.
On est tombés d'accord tous les trois, quoi. Un match qui ressemble à un barrage avant l'heure, Nico, c'est comme ça que tu le qualifierais aussi, ce match?
Bah, c'est la dernière chance des Rochelais, ça c'est une certitude. Voilà. Et pour le Racing 92, c'est l'occasion de prendre des gros points et de mettre une vraie pression sur le top 6. Et de re-rentrer dans le top 6 même. Parce que les Racingmen, ils sont 7e, égalité de points avec l'UBB, un petit point de Clermont. Donc ils ont une vraie possibilité de marquer les esprits. Il est intéressant ce match-là parce que, pareil, deux équipes assez régulières, même si le Racing, je trouve, à développer quand même une identité. On sait ce que cette équipe elle est capable de faire ou capable de ne pas faire, et ils le font bien, et tu sens qu'ils sont en train vraiment de rentrer dans un rythme avec une régularité, un rythme de croisière, tu vois, qui leur correspond pas mal, et ils vont enquiquiner pas mal.
Pas mal d'équipes, j'imagine.
Ils vont enquiquiner pas mal d'équipes. Ah, et puis ils ont un calendrier favori. Et on parle des calendriers, ils ont 3 réceptions, le Racing.
C'est ce que j'allais dire, ils ont un calendrier, ils ont des équipes qui ne sont pas évidentes, mais malgré tout, ils ont quand même 3 réceptions. Donc
La Rochelle, Toulon, Toulouse la dernière journée, où tu ne sais jamais les Toulousains à quel moment ils sont là, et ils auront un déplacement à Clermont. La Rochelle, ils ont le Racing, ils ont les armes pour être plus qu'un top 6. Eux, je pense qu'ils peuvent calculer peut-être un barrage à domicile. Dans leur calcul, de se dire on peut aller. Ils sont 4e au classement britannique, hein, le Racing. Ouais. Alors, ils ne vont plus à faire des plus parce qu'ils n'ont pas de match à l'extérieur. Mais ils sont bien placés pour coiffer sur le poteau, peut-être le MHR, peut-être même la section Palos, ce sera plus difficile. Mais en tout cas, le Racing, aujourd'hui, ils ont toutes les armes pour avoir un barrage à domicile. Alors, à domicile, ça sera où avec le Racing? On a toujours un doute, mais bon, normalement, ça sera à la U Arena. Mais oui, le Racing a les armes, je suis d'accord avec Nico. Ils ont Patrice Collazo, quand il est arrivé, il avait dit « Ouais, j'en ai marre, moi, des vedettes. Racing, on doit revenir à ce que c'était, un paquet dur, on doit faire mal devant. »
Il est revenu aux fondamentaux.
Ouais, il est revenu, en tout cas, à lui, ce qu'il avait fait quand il arrivait à Montpellier. Il ne veut pas réinventer le rugby, Patrice Collazo. C'est un entraîneur pragmatique qui s'appuie sur les fondements de ce jeu. Une grosse conquête, une grosse défense. Et puis après, derrière, malgré tout, il a des joueurs capables de faire des exploits. On pense à Abossi, à Tuisova. Voilà, il a des joueurs capables derrière, à Spring, qui est très bon, à Hule. Voilà, il a des joueurs qui sont capables de faire des exploits. Mais voilà, il est revenu sur quelque chose de très basique et ça marche très bien. Et aujourd'hui, ils sont bien en place. Et les Rochelais, eux... pareil, c'est comme les Toulonnais. Ils partent encore plus loin de Toulon parce qu'ils ont un point de moins en classement britannique que les Toulonnais. Et eux, pareil, ils savent que il faut gagner les 4 d'ici la fin de la saison. Tu dois connaître le calendrier par cœur, j'imagine, Roxane. Vas-y.
Un déplacement au Racing, une réception de Toulouse, déplacement à Montauban. Ouais. Celui-là, normalement, ça devrait aller. Et réception pour la dernière journée du Stade français. Il faut gagner tous tes matchs, donc ça paraît quand même compliqué.
Eux, il faut qu'ils gagnent,
surtout que La Rochelle continue d'être maudit. On vient d'apprendre la blessure de Boudéan et de Bourgarit, ce qui ne facilite pas les choses.
La Rochelle ne gagne jamais, c'est le top 8. Ils ne gagnent pas chez les équipes du top 8 depuis plus d'un an. Ils ont gagné à Bordeaux la semaine dernière, mais ils n'ont jamais battu une équipe du top 8 depuis quasiment 16 mois. Donc évidemment, la tâche elle paraît très très compliquée pour les hommes de Ronan O'Gara.
Je vais peut-être me répéter parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'on s'est quitté tout à l'heure quand ça a coupé de mon côté.
C'était brillant ce que tu disais.
Oui, très certainement. Non, mais je disais que, comme Jules disait, en fait, il y a un moment où les saisons miraculeuses, ça peut se produire dans le sport. Tu vas faire un run où tu prends 6 matchs, tu es champion de France, tu fais un hold-up, ok. C'est quand même pas la majorité des saisons qui se déroulent comme ça. Très loin de là, heureusement qu'il y a une logique sportive. Et on a déjà, nous, mis des doutes sur une potentielle qualification de l'Union Bordeaux-Bègles, qui est 6e du championnat, qui est encore dans le top 6, hein, mais qui est bien mieux classé que La Rochelle et Toulon. Faire croire croire, enfin, c'est pas faire croire, mais se dire que potentiellement La Rochelle ou Toulon peut le faire, faudrait un énorme concours de circonstances.
Bien sûr.
Avec tout ce qu'ils ont vécu. Il y a eu énormément de bas dans leur saison, peu de hauts, énormément de rendez-vous manqués. Je pense qu'il y a un effectif qui, même s'il est composé de champions, je pense que les mecs, ils sont rincés, ils sont lessivés. C'est leur dernière cartouche, ils le savent, mais ils en ont eu des dernières cartouches depuis quelques temps. Il y en a eu dans le barillet et ils ont tiré à côté de la cible. Donc voilà, face à un Racing qui fait très bien ce qu'il maîtrise, est sûr de ses forces. Donc moi j'ai du mal à avoir ce stade Rochelet là être capable de renverser la table en fin de saison. Ça me paraît même improbable. S'ils le font, franchement, bravo à eux. Ils auront fait mentir tous les pronos et ça sera une énorme perf. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à me dire qu'ils sont capables de le faire. Qui plus est face à ce Racing.
On va écouter, messieurs, Oscar Jégou en conférence de presse, qui est revenu sur ce match à jouer contre le Racing et sur le fait que tous les matchs à venir étaient finalement des matchs de phase finale.
On le prépare comme une phase finale déjà depuis 10 jours, donc on est très concentré cette semaine et c'est vrai qu'il y a une mentalité un peu qui a changé parce que c'est un gros rendez-vous et on le sait, c'est un match décisif. On a fait une très bonne semaine et je pense qu'on sera prêt. C'est surtout celui qui va confirmer notre bonne dynamique, je pense, et qui va nous permettre de prendre confiance. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner tous nos matchs et espérer pouvoir jouer un barrage.
J'allais te demander, Julien, tu les as vus jouer à Perpignan il y a deux semaines, les Rochelais. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le jeu, en plus du Racing, peut complètement les embêter. C'est typiquement le genre de jeu qui peut embêter le jeu du Stade Rochelet et qui peut les empêcher de mettre en place leur propre jeu à eux.
Oui, parce que c'est une équipe. À Perpignan, ils se sont régalés parce que les Catalans, ils avaient envie de jouer. Donc, on a eu un temps de jeu effectif assez élevé. Les Rochelais, ils ont pu effectivement mettre du jeu en place, aller vite sur les extérieurs, parce qu'après, ils ont des... Pareil, ils ont des super joueurs, Niniashvili, rien que lui. Le Garek avait été étincelant du côté de Perpignan. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, le Racing, ils vont les embêter, ils vont les enquiquiner, ils vont faire la guerre dans les rucks. Et je ne sais pas si La Rochelle, ils ont envie de faire la guerre dans les rucks. Et pour rejoindre à ce que disait Nico, on dit que Toulon et La Rochelle, ils peuvent être dans les 6. Mais pour passer dans les 6, il faut doubler des équipes.
Ils sont 9e, hein, on le rappelle quand même. Hein, ouais, parce qu'avant même d'être dans les 6, l'objectif, c'est peut-être même d'être dans les 8 déjà.
C'est-à-dire qu'il faut doubler des équipes qui vont donc aussi rater leur fin de saison. Donc,
qui s'effondre devant qui on voit s'effondrer devant
Pas assez d'équipes pour leur permettre d'être 6e, je pense.
Alors, il y a des confrontations directes, il y a des équipes qui vont perdre des points. Il y a un Montpellier-Pau dans 15 jours, donc il y a une des deux qui va perdre des points. Mais ils ne vont pas perdre suffisamment de points. Alors, je vais revenir à mon britannique.
Il faudrait que tu aies une équipe du top 6 qui s'effondre complètement.
Par exemple, la section paloise, ils sont à 25 au classement britannique, quand La Rochelle, ils sont qu'à 10. Donc, ça fait 15 points d'écart au classement britannique. Donc, ça veut dire que la section paloise, ils doivent perdre leurs deux matchs à domicile et La Rochelle gagner les deux matchs à l'extérieur. Et même là, ils ne passeront pas devant Pau, en sachant que Pau, en plus, reçoit Montauban à domicile. Donc, par exemple, Pau, tu sais que quasiment, tu ne pourras pas les rattraper. Donc, qui sait qu'on voit s'effondrer devant? C'est ça aussi la question.
Effectivement,
La Rochelle et Toulon peuvent faire une belle fin de saison, mais il faut que devant, il y ait des équipes qui tombent. Et
sachant
voilà,
que tu as aussi le Clermont et le Racing qui se battent, qui sont à égalité, qui se battent pour cette 6e place. Et le Racing qui est quand même beaucoup plus régulier sur la saison, messieurs.
Oui, après La Rochelle, je pense que pour un club, ce qui est important, c'est de se qualifier pour la Champions Cup, par contre. Financièrement, je pense que là, ils ne peuvent pas le dire qu'ils visent la 8e place. Alors, c'est logique de te dire, on vise la 6e place parce qu'il faut que tu fasses preuve d'ambition pour tes partenaires, pour garder une émulation au sein du vestiaire. Mais ce qu'on dit, nous, les joueurs, ils en sont aussi conscients qu'ils ont eu des manques sur la saison. Mais je pense que, par contre, aller chercher cette place européenne, c'est vital pour l'économie d'un club. Financièrement, c'est beaucoup plus intéressant d'être dans la Champions que dans la Challenge. Tu crées une émulation au sein de ton groupe, tu peux recruter plus facilement. Je pense qu'au fond d'eux, ils espèrent être la 8e et en cas d'accident. Exactement. Et en cas d'accident, de bel accident, se finir 6e. Mais je pense que dans leur logique, c'est essayer d'être les 8. Parce que là, il va y avoir un déçu entre Clermont, le Racing, La Rochelle, Toulon, sans parler peut-être du Stade français, de Montpellier. Il y a une équipe qui va être 9e à la fin de la saison. Et pour celle-là, ça va être une grosse, grosse déception.
Et comme disait Nico, ça respecterait quand même une certaine logique sportive sur l'ensemble de la saison. Est-ce qu'on a des infos, Compo, Nico? Est-ce que tu as des infos, notamment pour le Racing?
Alors, le Racing, qu'est-ce qu'on a Oui, on a une tendance hein, sur le 15 probable de départ. Alors, vous savez qu'on aura les compos officiels le samedi et qu'on enregistre le podcast le vendredi. Mais on partirait sur Gogi Chachvili, le Géorgien, Yannick Tarit, numéro 2, Demba Bamba, numéro 3, Iltao Fifenou en deuxième ligne, Bodon, Nathan Hughes et Diallo en troisième ligne, Carbono, Gibert à la charnière, Hugo Sun serait sur le banc de touche, Naitouvi et Ravu Tomada sur les ailes, Fikou, Tuisova ou Joe Manu au centre et Spring, le capitaine, à l'arrière. Donc voilà, mais c'est le compo du Racing classique. Et puis on a l'impression qu'il y a des joueurs qui sont un peu interchangeables. Tu vois, que ce soit Manu ou Tuisova au poste de 13, tu sais que ça fait mal. Ouais. À la place de Nathan Hughes, tu peux avoir Tagi Valou. Il est passé celui-là, mais il était dur à passer quand même. Donc,
c'est pas le plus dur pourtant. Tagi Valou. Ouais,
non, c'est pas très dur, mais là, il est pas passé. Donc, mais voilà, ça c'est costaud. Côté Racing 92, franchement, c'est très solide, c'est maîtrisé, c'est dans le projet de Patrice Collazo, j'ai envie de te dire.
Et côté La Rochelle,
côté Rochelais,
vas-y Julien.
Alors moi, j'aurais mis Nignacheville à l'arrière sur le synthétique. Alors c'est, on va saluer Romain Asselin qui nous a envoyé les tendances de la compo. Alors si Ronan O'Gara sait que les journalistes ont les compos, il va faire la tête Ronan O'Gara. Donc Yaya West à l'arrière. Je sais pas ce qu'en pense.
Du coup, tu dénonces Romain comme ça, Ronan. Ouais, on en aura contre Romain.
Mais oui. Nignacheville et Leeds sur les ailes. La Jivala que j'avais trouvé très bon à Perpignan aussi. Ouais. D'abord sur l'aile et ensuite au centre avec Soyteni. Astoy Le Garec pour la charnière. Tu l'as dit, Boudet en blessé, c'est donc Timo, le joueur du Stade français, le champion olympique à 7, qui aura le numéro 7 avec Aldrit, capitaine, et Jégou. Cancorier, Kanté Samba pour la deuxième ligne. Féao, Latou, Kadouri ou Wardi pour le poste de pilier. Botia sera sur le banc. Favre aussi. Bergeon, voilà, c'est aussi. Dans cette saison remplie de blessés où l'infirmerie a souvent fait le plein, c'est une équipe qui paraît cohérente. Soyteni, la Jivala, Nignacheville, Leeds, c'est quand même des pattes dans cette U Arena où le synthétique, les équipes se régalent de pouvoir jouer avec le Garec que j'ai trouvé très bon à Perpignan et qui connaît parfaitement cet endroit.
Bien sûr, qui revient à la maison.
Je pense que les Rochelais peuvent faire un coup du côté du Racing. Ah mais voilà, ça
ne suffira peut-être pas.
Non, ça ne suffira peut-être pas. Mais je pense qu'ils ont, en tout cas, ils ont les armes pour aller faire un coup du côté du Racing. Mais comme on le dit depuis le début, c'est le reflet. Ce match-là, tu peux faire un exploit. Mais la saison, elle reflète aussi tout ce qui t'a manqué. Donc voilà, on verra ce que vont faire les Rochelais. Mais ouais, je pense que cette équipe-là, elle est capable d'aller faire un coup au Racing. Et puis après, si ça ne marche pas, ils ont souvent explosé à l'extérieur. Attention à ne pas exploser. Et comme je disais tout à l'heure avec Bayonne, une intersaison sans Coupe d'Europe avec des club qui se structure, même si voilà, vous avez fait on a fait un podcast sur La Rochelle et le changement de philosophie avec cette volonté de plus jouer, un rajeunissement de l'effectif. Tu sens que c'est parti pour un cycle de 2-3 ans avant que La Rochelle revienne peut-être tout en haut, mais voilà, attention à pas vivre une saison très très compliquée où tu termines 9e du coup, sans grande Coupe d'Europe la saison prochaine.
Tout à fait, ça sera donc la fiche du dimanche soir à 21h05. Messieurs, est-ce que vous avez quand même des joueurs à suivre? Julien, est-ce que tu t'es mis une petite pépite sur le côté à surveiller ce week-end?
Oui, alors il y avait le petit Maxime Granel du côté de l'USAP, mais j'avais un doute sur le fait d'en avoir déjà parlé. Mais ça fait partie des joueurs que Laurent Labitte va faire jouer d'ici la fin de la saison pour essayer de créer la meilleure équipe possible. Attends, je cherchais du coup qui c'est que j'avais choisi comme je ne trouve pas. C'était Etchegaray, le Bordelais que Nico connaît bien, que Montpellier a récupéré et qui va jouer à l'arrière, qui a du coup mis un peu Tom Banks en réserve de la patrie, lui qui ne jouait, qui ratait jamais une minute. Et ben le joueur prêté par Bordeaux fait honnêtement des super super matchs. Il a mis tout le monde d'équerre lors du premier entraînement. Il est arrivé, il a traversé le terrain, il fait des choses que personne ne faisait du côté de Montpellier, et donc il a réussi à faire son petit trou dans cet effectif. C'est un un joyeux luron qui a aussi fait très vite sa place dans le vestiaire, Johan Etchegaray. Mais voilà, c'est un vrai beau joueur de rugby qui va vite, qui est parfois un peu gourmand encore, mais que je trouve très intéressant. Et je pense que les Montpellierains seraient très intéressés de le garder en vue de la saison prochaine. Alors là, il va y avoir des sacrées batailles. Mais voilà, Etchegaray, l'arrière de Montpellier qui va jouer à l'arrière. Très beau joueur, qui plus est contre Montauban. On devrait le voir à l'œuf ce week-end.
Et Montpellier-Montauban, ce sera dans le multiplex à 16h35 samedi. Nico, est-ce que tu avais un joueur, toi aussi, à observer ce week-end ?
Alors oui, il y en a un que j'aime beaucoup et je ne sais pas si on en a déjà parlé dans le podcast. J'avoue que je ne me suis pas refait tous les épisodes. Je crois qu'on n'en a jamais parlé. C'est Léo Michaud, le deuxième ligne de Clermont.
Ah, j'en ai parlé il y a deux semaines.
International des... Ah, c'est toi qui l'as fait il y a deux semaines. Donc bon,
bravo. Voilà.
J'ai plus de joueurs, Roxane. Voilà. Non, mais de toute manière, il y a plus. Là, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est la fin de saison. C'est les tauliers qui sont alignés. T'as plus de jeunes qui sortent un peu de nulle part, à qui on file ses premières minutes, sauf grosses blessures. Tu regardes là toutes les équipes qui sont alignées, même pour les clubs qui ont plus trop d'enjeux, les tauliers sont là. Mais en effet, Léo Michaud. Joueur à scruter, et il a été très bon lors de la victoire à Toulouse. Il a rentré 39 minutes, il était vraiment très bon. Donc ça fait partie de cette jeunesse un peu clermontoise qui peut reparticiper à la renaissance du club. Je suis peut-être un peu fort, mais en tout cas à réinstaller définitivement Clermont dans le top 6 de ce top 14, même si on sait que c'est tellement dur d'y être dans ce top 6.
Clermont qui joue ce week-end, j'ai perdu Perpignan.
Perpignan contre Perpignan.
Ils reçoivent Perpignan.
Merci. C'est ça. Il y en a avec qui plaisir. Suivent. Merci messieurs. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On vous souhaite des bons matchs. C'est bientôt la fin de la saison. Donc on en profite. C'est le retour des beaux jours. Et on se régale avec ce top 14. Exactement. Christophe Fiorus n'est jamais bien loin. Merci à tous. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. On se donne rendez-vous lundi pour un nouvel Entre les poteaux.